9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Anne-Sophie Alsif.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes chef économiste chez BDO, le cabinet d'audit et de conseil international, et vous êtes professeur d'économie à la Sorbonne. Alors pourquoi Emmanuel Macron, à votre avis, tient-il tellement à réformer le système des retraites, même entre les deux tours de la présidentielle, alors qu'il était censé glaner les voix à gauche? Il promettait de le faire. Ça peut vraiment pas attendre. Le système de retraite est à l'équilibre. Il est même excédentaire de 3,2 milliards en 2022. Bon, c'est dû à la croissance post-Covid. Hein. Or, il a dit qu'il faut absolument que ça entre en vigueur l'été prochain. Pourquoi c'est si urgent ?
Alors, c'est si urgent, pas forcément pour des raisons financières à court terme, mais pour un portage politique, et notamment européen au niveau des investisseurs. En effet, on a une trajectoire d'endettement qui est importante. On voulait se désendetter avec une forte croissance qu'on attendait cette année à plus de 4%. On sera malheureusement à la moitié à cause de la guerre ukrainienne. Donc l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était de dire on s'est endetté avec le Covid, mais maintenant on va avoir des finances publiques plus robustes, notamment par rapport aux partenaires allemands, et donc on va se désendetter. Bien évidemment, ça ne va pas prendre très peu de temps, hein, ce sera sur des décennies. Par contre, ce qui est important, c'est la trajectoire et les réformes structurelles mises en avant. Et la première de ces réformes structurelles, on a parlé de l'assurance chômage, mais c'est surtout la réforme des retraites, dans un contexte où, en effet, nos partenaires européens ont beaucoup et travaillé sur cette réforme. Hein, la majorité des âges de départ sont entre 65 et 67 ans. Et donc, de fait, c'était très attendu par les partenaires et aussi pour les investisseurs, parce que cela voulait dire que Emmanuel Macron continuait de réformer. Et là aussi, pour la soutenabilité des finances et la crédibilité de la politique économique, c'était important.
Parce que ce n'est pas dû au vieillissement de la population, hein, la nécessité de réformer le système des retraites. Au fond, les actifs payent pour les retraités. Mmh. Ça dépend donc de la masse des revenus des actifs et de la masse des pensions des retraités.
Alors, ça a quand même un petit peu un impact à moyen long terme. Alors après, c'est plutôt un choix politique. Mais en effet, c'est un système par répartition. Donc, si votre quantité d'actifs est moins importante, vous avez par exemple un fort taux de chômage, si vous avez une crise, eh bien, en effet, si votre niveau de retraité augmente, vous pouvez avoir un problème de financement. Mais là encore, c'est ça toute l'enjeu, et à mon sens, qui est un petit peu erroné, c'est qu'on se focalise beaucoup en France sur l'âge de départ, alors qu'à mon sens, la vraie question, c'est le niveau des pensions quand vous partez. Et en effet, le Conseil d'orientation des retraites travaille beaucoup sur 14% du PIB qui va aux retraites, et en tirant le trait, on continue à être sur ces niveaux. Vous l'avez dit, hein, ça dépend beaucoup des hypothèses et des facteurs exogènes. Mais à moyen long terme, la question est qu'est-ce que l'on veut financer, quel niveau de pension on veut avoir à la retraite. Et on voit dans les pays européens, même si vous avez un âge de départ, et d'ailleurs c'est le cas en France, l'âge effectif est beaucoup plus à 64 ans déjà. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on préfère travailler plus longtemps pour avoir une retraite plus importante. Et à mon sens, c'est là où est tout le débat sur les niveaux des pensions.
Mais alors justement, les régimes de retraite privés, hein, ceux des salariés et des indépendants, il est en excédent cette année de 2,6 milliards. C'est le régime de retraite de la fonction publique qui est déficitaire, parce que le déficit est financé par l'État, donc il augmente encore la dette publique, et c'est pas bien vis-à-vis de nos partenaires européens.
Alors toujours, hein, en effet, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors après, on a ce principe de solidarité, donc et c'est aussi le but de la réforme, le gouvernement l'a annoncé, hein, avoir cette solidarité, essayer d'avoir un système qui tranche le moins possible entre le public, le privé, les différentes catégories, les professions libérales, hein, essayer de tout centraliser. Donc ça, c'est l'objectif. En effet, hein, vous l'avez dit, il y a un déficit, hein, au niveau du secteur public, mais l'idée, c'est de se dire qu'avec le temps et surtout avec les compensations qui vont avoir lieu, puisqu'en effet, le secteur privé est plutôt excédentaire, et en appliquant le principe de solidarité, il n'y aura pas de problème de financement. Après, il faut aussi regarder, hein, souvent le niveau de pension dans le secteur public est souvent des fois moins important. Donc là aussi, il faut regarder, à mon sens, toujours en termes de quantité d'argent à la retraite et pas seulement l'âge de départ.
On y reviendra, mais les retraites, c'est une grosse partie du déficit public. On parle de 15% du budget de l'État, de 25% du PIB, dans l'éducation nationale, par exemple, ce serait 28% des dépenses.
Alors en fait, il ne faut pas forcément le voir comme ça. Le grand problème qu'on a de corrélation avec l'âge de départ à la retraite, c'est aussi le taux d'activité, le taux d'emploi. On parle beaucoup du plein emploi, hein. Le problème en France, pourquoi on est à 7% quand on dit qu'on est une baisse du taux de chômage et pas à 4%, enfants, c'est parce qu'on a un taux d'activité des moins de 25 ans et des plus de 55 ans qui est beaucoup moins élevé que les autres pays européens. Et ce que l'on voit, c'est quand vous augmentez l'âge de départ à la retraite, eh bien forcément, il y a un décalage sur le départ et donc le taux d'activité augmente. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de dire plus vous maintenez les gens en emploi, plus ils produisent, plus ils paient de cotisations, etc. Donc plus vous créez de richesses et cet argent que vous dégagez, vous pouvez l'octroyer à avoir des pensions plus importantes ou pour financer des transitions ou des politiques publiques, comme on l'a dit, l'investissement, l'éducation. Donc c'est vraiment un choix politique.
On dit que les dépenses publiques de retraite devraient augmenter de 1,8% par an. Or, il ne faut pas qu'elles augmentent de plus de 0,6, hein, grosso modo. Hein. C'est donc déjà trois fois trop.
Alors oui, hein, après c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on a un système assurantiel. Donc oui, c'est sûr qu'on va avoir une proportion qui va augmenter dans les prochaines années. Donc c'est un vrai sujet de financement. Mais là encore, à mon sens, c'est beaucoup plus un choix politique de comment on finance. Hein. Par exemple, garder la retraite à répartition, et on le voit dans d'autres pays européens, il peut y avoir des assurances complémentaires, mais là aussi, il faut faire attention à garder le principe de solidarité. Et puis l'autre question, c'est vraiment comment moduler l'âge de départ et la pension par rapport à votre activité, notamment à la pénibilité. Alors c'est vrai que souvent les gouvernements n'aiment pas, parce que quand vous parlez de ça, vous ouvrez un peu la boîte de Pandore, et donc en effet, quel emploi est pénible, c'est pas évident. Mais c'est vrai que c'est ce qu'aussi ont fait beaucoup de pays européens, notamment les pays du Nord, pour essayer d'avoir l'âge de départ le plus juste, parce que l'idée c'est bien sûr l'âge de départ, mais c'est aussi... Une fois que vous êtes à la retraite, combien d'espérance de vie vous avez à la retraite en bonne santé? Et là, il y a beaucoup d'inégalités en fonction de votre catégorie sociale et de l'emploi que vous avez exercé. Donc l'idée, c'est aussi dans l'âge de départ, avoir une bonne pension, mais aussi pouvoir eh bien, profiter de sa retraite d'une manière assez égalitaire.
Au départ, en 2017, Emmanuel Macron voulait réformer le système de retraite par souci d'équité.
Hein. Voilà.
Ensuite, ça a été à cause du vieillissement. Ensuite, et maintenant, c'est pour financer la transition écologique.
Oui.
pourquoi ne dit-il pas tout simplement, d'après ce que vous nous dites, que c'est essentiellement pour rentrer dans le pacte de stabilité européen?
Alors, bon, parce que c'est souvent difficile à dire politiquement et que ce pacte n'est pas trop aimé. Hein. En plus, il est souvent pas du tout respecté puisqu'il faudrait avoir 3% de déficit et 60% de dette publique, je le rappelle. Donc, quand on voit la zone euro, on en est très loin. Donc, cela. Mais à mon sens, c'est pas forcément pour être en accord avec les chiffres du pacte, mais c'est plutôt pour donner un signal positif à nos partenaires et aux investisseurs. Il faut savoir qu'on est dans un contexte de hausse des taux. Et donc, l'idée aussi, c'est de dire, attention, n'attaquez pas la France, nous sommes robustes, nous faisons de bonnes réformes structurelles, tout va bien, gardons une dette publique soutenable avec des taux d'intérêt bas.
On fait une pause, Anne-Sophie Alsif, et on y retourne.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Anne-Sophie Alsif est chef économiste chez BDO et professeure à la Sorbonne. Elle est toujours avec nous ce matin. Le système de retraite, on l'a dit, est à l'équilibre hein, en ce moment. Il est même excédentaire. Mais on nous dit qu'il devrait être déficitaire en moyenne sur les 25 prochaines années. Or, on n'en sait rien. On sait que ça dépend. Il pourrait y avoir un nouveau Covid. Il peut y avoir des progrès technologiques. Il peut y avoir de la croissance ou pas de croissance. Et c'est en fonction de tout ça qu'on saura s'il est excédentaire ou déficitaire. Pour l'instant, on n'en sait rien.
Pour l'instant, on n'en sait rien, puisque comme vous l'avez dit, le modèle dépend des gains de productivité, de la croissance, du taux de chômage, de toutes les crises. Donc, en effet, on l'a vu depuis 3 ans, c'est assez difficile. Bon, après, il faut quand même faire des prévisions, puisqu'il faut quand même savoir quand même financièrement où on va. Mais c'est vrai que c'est vraiment en fonction de ces hypothèses. Après, le Conseil d'orientation des retraites a fait un gros travail pour justement retravailler ces hypothèses qui pouvaient des fois paraître assez optimistes au vu des crises que l'on a vécues, pour voilà, être plus flexible et s'adapter quand on a un choc exogène aussi important que le Covid. Mais en effet, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire comment sera l'état du système dans 25 ans.
On sait que c'est plutôt le régime de retraite des fonctionnaires qui est déficitaire. Pourquoi ne pas réformer tout simplement le régime de retraite des fonctionnaires? Ça ne suffirait pas?
Alors ça ne suffirait pas et puis c'est assez compliqué parce que pour beaucoup de fonctionnaires qui sont rentrés avec un contrat, notamment de retraite, ça va être compliqué puisque forcément vous vous rendez compte que si vous allez réformer, ça va sûrement être moins avantageux ou il va y avoir des pertes. Alors vous allez me dire, il y a eu beaucoup de réformes de retraite depuis des décennies où justement on perd, voilà, on part plus tard, c'est les derniers trimestres qui sont pris, enfin bon, il y a beaucoup de réformes. Là, c'est vrai que pour le pouvoir politique, on l'a vu quand même juste avant le Covid, ça paraît très loin, c'est quand même très compliqué de réformer parce que ça voudrait dire revoir ces régimes des fonctionnaires, revoir les régimes spéciaux. Si on voulait tout mettre à plat, et c'était au début l'ambition du gouvernement, ça veut dire quand même des gros changements, et pour beaucoup de personnes, parce que l'idée c'était aussi quand même cela, il faut le rappeler, hein. À l'époque quand on avait le plein emploi, donc il y a longtemps, vous rentrez dans la fonction publique où vous pouvez parfois être moins payé, hein, par rapport au secteur privé, mais vous aviez des avantages sociaux plus importants, et la retraite notamment plus tôt, hein, de départ, en était un. Donc c'était un petit peu le contrat, alors que dans le privé, en effet, eh bien, vous pouviez gagner plus d'argent, mais vous aviez un mode de cotisation qui était différent. Donc c'est vrai que c'est remettre en compte ce contrat, et pour beaucoup de fonctionnaires qui se disent et qui trouvent qu'ils ont bien travaillé et qui respectent, eh bien, c'est aussi compliqué politiquement.
Alors je le rappelle, hein, dans notre système, ce sont les actifs qui payent les pensions des retraités. Donc le gouvernement pourrait décider de baisser le niveau des pensions, qui est, je crois, 2544 € en moyenne nette. Hein, mais enfin, ce serait mauvais pour les retraités.
Alors ce serait mauvais pour les retraités. Les futurs retraités. Et puis c'est encore, à mon sens, ça l'enjeu. Au lieu de se focaliser sur l'âge de départ, c'est les niveaux des pensions. Et ce qu'il faut faire aussi, là, très attention, là, avec la crise Covid et l'inflation, hein, comme vous l'avez dit, c'est un système où ce sont les actifs qui paient pour les retraités. Eh bien, si on garde cet âge où on ne va pas plus loin et qu'on a toujours un taux d'activité des seniors qui est plus bas que les autres pays européens, ça veut dire aussi des pensions qui sont plus faibles et surtout qui commencent à être plus décorrélées des actifs, hein, où les rémunérations vont davantage suivre, notamment l'inflation. Et c'est vrai qu'en cette période actuelle, c'est important. Donc c'est ça aussi le risque, c'est qu'il y ait un décrochage au niveau des retraités de leur pouvoir d'achat par rapport au reste de la population et par rapport aux actifs.
Alors le gouvernement pourrait augmenter le niveau des cotisations, mais ça ce serait mauvais pour les actifs, puisque c'est eux qui payent, et il est déjà très élevé. Ce serait aussi mauvais pour la compétitivité et pour l'emploi.
Tout à fait. Ça c'est aussi quelque chose qui est compliqué à faire. On a fait énormément de réformes, notamment pour réindustrialiser, relocaliser en France. Depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de réformes qui vont dans ce sens. C'est vrai que d'augmenter encore le coût sur le travail, hein, on a déjà beaucoup de fiscalité, de choses à payer, eh bien ça risque là aussi de pénaliser les emplois, notamment les emplois qui sont dans la compétitivité internationale, et donc d'avoir un impact sur notre compétitivité.
Donc, en fait, on va choisir de faire travailler les Français plus longtemps. Et comme c'est ce que veut le patronat, on se dit, ah ben voilà, Emmanuel Macron, en fait, il veut faire ce que veut le patronat.
Alors oui, on retombe toujours là-dedans. Alors le patronat, peut-être, mais en tout cas, on voit quand même qu'au niveau européen et globalement, c'est ce qui se fait. Il y a aussi d'autres méthodes, hein, comme l'Allemagne l'a très bien fait pendant la crise syrienne. Le problème, c'est qu'en effet, vous avez un nombre de retraités qui augmente, vous avez votre nombre d'actifs qui décroît ou qui est moins important pour avoir cette charge. Eh bien, la solution, ça peut être aussi d'augmenter votre nombre d'actifs tout de suite. Et c'est ce qu'a fait l'Allemagne avec les Syriens. Vous intégrez 1 million de Syriens directement sur votre marché qui sont qualifiés en les formant pendant 1 an. Eh bien, le lendemain, enfin l'année d'après, vous pouvez les taxer pour payer votre système des retraites. Donc en fait, c'est vrai que l'immigration, et l'Allemagne l'a beaucoup utilisé, est aussi un moyen assez efficace finalement de résoudre ce problème. Mais peut-être moins évident politiquement.
Anne-Sophie Elsy, vous en tant que professeure d'économie à la Sorbonne, feriez quoi vous?
Alors, bah, c'est ce que
Parce
je viens
que
de dire.
Hein,
d'une manière purement économique, ce qui est assez efficient, c'est en effet l'immigration. Hein, et là, vous pouvez en effet aussi choisir dans certains secteurs pour qu'il n'y ait pas de concurrence aussi par rapport aux Français. Je vous dis, beaucoup de pays ont recours à ça. On a parlé de l'Allemagne, le Canada. Donc, c'est vrai que c'est assez efficace parce que ça vous permet de taxer tout de suite le nouvel entrant. Donc, c'est assez intéressant. Augmenter la natalité, il y a beaucoup de politiques qui vont dans ce sens, mais c'est très long, coûteux, et puis vous connaissez moins le résultat, est-ce que la personne va s'insérer ou pas, quand vous allez pouvoir la taxer pour payer les retraites, vous ne savez pas, surtout avec l'allongement des études, donc on va dire que c'est moins efficace. Donc c'est vrai qu'à court terme, hein, et ça va être une vraie question, notamment avec le réchauffement climatique, vous allez avoir une augmentation très importante des réfugiés climatiques qui vont venir du Sud et qui sont beaucoup plus jeunes. Il y aura, à mon sens, pour l'Europe, mais pas seulement, pour tous les pays de l'OCDE, une vraie question de dire, eh bien, comment on fait ? Beaucoup de pays, hein, peuvent voir ça comme une opportunité pour en effet financer leur système de protection sociale.
Surtout que quand on choisit de faire travailler les Français plus longtemps, il y a toujours les dernières années où de toute façon on a toutes les chances de se retrouver au chômage. Et donc en fait on est encore une charge pour la dette publique.
Tout à fait, ça c'est un autre problème, hein, au niveau des entreprises. C'est vrai que vous le dites, le patronat demande qu'il y ait ce recul d'âge de départ, alors que dans les faits aussi on voit que beaucoup de personnes sont en système de pré-retraite dès 55, 56, 57 ans et attendent du coup leur retraite pour ensuite passer au système général. Donc là aussi, c'est la question de faire que les gens puissent durer longtemps dans leur emploi et pas être mis à la porte en pré-retraite à 55 ans.
En tout cas, on a bien compris que c'était compliqué.
C'est compliqué.
Merci Anne-Sophie Elsif.
Merci
beaucoup. On fait une pause, on se retrouve juste après avec un jeune romancier.